BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Tout pour investir, c'est parti. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de TPI sur BFM Business, en direct à la radio, à la télé, sur le web. Évidemment, 100% de nos chroniques sont à retrouver en podcast et en replay. Bon, on va rester aujourd'hui dans des thématiques de saison, clairement, avec une question qui nous préoccupe, qui vous préoccupe. Quel genre d'été on va avoir du côté de vos finances personnelles? Y a-t-il du gros temps à prévoir sur les marchés financiers? Des déséquilibres entre IA, politique monétaire, devises, etc. L'été sera-t-il turbulent? Y a-t-il des ajustements à faire avant de partir en vacances? L'esprit, allez, au minimum tranquille. On a déjà commencé à défricher le terrain cette semaine. On va continuer avec nos déchiffreurs du jour, Géraldine Métifeux d'Alter Egal et Olivier Le Chevalier de Deft Hedge. Arbitrage sur les marchés avec Antoine Fraisse-Soulier, 10 taureaux. Petit focus sur le Bitcoin, dans le placement à suivre. Gros coup de faiblesse en ce moment sur la reine des cryptos. On en parle avec Benoît Fernandez-Rioux tout à l'heure. Puis tiens, une nouvelle canicule qui pointe peut-être le bout de son nez pour la fin de la semaine, début de semaine prochaine. On va se poser une question, alors quasi philosophique, en fin d'émission avec Benjamin Watine de So We Found. Au vu de ce dérèglement climatique, dont on ne finit pas d'avoir des preuves concrètes, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de terrain d'investissement? Est-ce qu'on investit à bon escient et aux bons endroits, là, maintenant, au vu du monde qui nous entoure et de ses changements? Sujet très intéressant à retrouver dans le coffre-fort où il fait bon frais en fin d'émission. Sinon, toujours du pratique au pratique pour vous aider au quotidien. Gros plateau dans la boîte à outils. Alors, grosse boîte à outils sur l'apport cession. Un sujet très technique, mais qui vous passionne, qui vous intéresse, qui vous préoccupe, surtout quand vous êtes entrepreneur, et on sait que vous êtes nombreux à nous écouter. Rendez-vous avec les spécialistes de KMH for Life. Ils seront dans la boîte à outils. Donc, vous pouvez nous joindre par email et nous poser vos questions. L'adresse mail, c'est direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous envoyer un SMS au 73216, taper le mot-clé business suivi de votre question. Et puis, me poser vos questions directement sur mes comptes Twitter et LinkedIn. J'essaie d'y répondre au cours d'émission. Le reste de l'actualité du jour. Alors, premier semestre qui s'est achevé dans le vert pour le secteur automobile en France. Et oui, tout arrive. Les immatriculations de voitures neuves ont progressé. Alors, pas beaucoup, presque 2% sur les 6 premiers mois de l'année, en finissant même par un plus 11 sur un mois au mois de juin. Et alors, un bond spectaculaire de l'électrique qui se confirme, plus de 28% de parts de marché avec plus de 240 000 nouvelles immatriculations. On en sait plus sur la cession des activités renouvelables d'EDF aux États-Unis et au Canada. Ça se fera au fond KKR. La vente a été chiffrée par EDF ce matin, 4,2 milliards, de quoi notamment permettre de financer un peu du programme de l'EPR2 en France. Aux États-Unis, la fin des restrictions de sécurité nationale pour Anthropic. Le gouvernement américain a levé ses contrôles d'exportation sur Fable 5 et Mythos 5, les deux IA les plus puissantes de l'entreprise pour le moment. En échange, selon l'administration, Anthropic s'est engagé à traiter les risques de sécurité et à travailler avec le gouvernement américain sur les normes et les sorties de ses futurs modèles. Allez, tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
C'est vrai qu'avec un micro qui marche, on entend mieux les choses. Le CAC 40 en légère baisse là aujourd'hui. On avait terminé le premier semestre sur une hausse lors de la séance d'hier. Et puis là, on se rééquilibre un peu. Moins 0,41%. On est à 8 369 points sur l'indice vedette de la Bourse de Paris. À noter encore une surperformance de l'Euronext Tech Leaders, mais de peu. Plus 0,24%. Enfin, on est quand même dans le vert. L'Eurostock 50, lui, est quasiment à l'équilibre à moins 0,15%. Le DAX à Francfort, plus 0,23, moins 0,31% pour l'IBEX à Madrid. Un tableau un petit peu disparate, mais enfin globalement un petit peu partout, on reste sur les starting blocks en attendant que des déclarations un petit peu plus consistantes sortent du symposium de Sintra, vous savez, le grand symposium des banquiers centraux. On a également du côté des valeurs des choix assez nets. C'est vrai que je vous ai parlé de l'automobile et donc de ce rebond des ventes sur le marché français. Mais Renault en profite pour gagner 3,19%. On est à 25,88€. Stellantis plus 2,11 à 5,09. On n'oublie pas la défense aussi, avec Airbus plus 2,24 à 198,90 et Thales plus 2,27 à 229,90. La semaine commence à être vraiment positive hein, pour les avionneurs, la défense, etc. Safran qui gagne 1,3% à 349,50. Cela dit, on n'oublie pas les semi-conducteurs, le secteur qui bouge le plus du moment, avec notamment STMicro qui gagne 1,27% à 65,31. On a gagné plus de 150% sur le premier semestre et quasiment le même score pour Soitec qui gagne encore ce matin 3% à 120,85 €. À la baisse, bon, on met de côté les valeurs défensives, on va dire. L'énergie avec Engie qui baisse d'1,9% à 27,08 €. Orange moins 1,64 à 16,24 €. À noter encore une performance vraiment médiocre du secteur du luxe qui a été atteint hier par, on va dire, un sentiment négatif autour de Kering. Il y a eu des déclarations de la direction financière auprès des analystes qui n'ont vraiment pas convaincu. Il y a beaucoup de bureaux d'analystes qui ont abaissé leurs opinions, qui ont émis des opinions négatives autour de Kering. Ça a pesé sur l'ensemble du secteur. Singulièrement, c'est LVMH là, qui perd 1,6% ce matin. À noter que la plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Viridien, qui recule de 5,8% à 78,95 €. L'euro, 1,14 $ pile. On sent que c'est un niveau pivot hein, du moment. Un petit coup d'œil sur le Bitcoin, ben oui, qui s'est qui est vraiment passé sous les 59 000 $ désormais. On est à 58 897. On fera un point complet hein, un petit peu plus tard dans l'émission sur qu'est-ce qu'on fait avec le Bitcoin pour le moment. Du côté du pétrole, et on va en reparler dans quelques secondes, notamment avec Olivier Le Chevalier de Deft Hedge, on est à 72 $ sur le Brent de mer du Nord, 68,57 pour le brut léger américain. Et après son pire trimestre en 13 ans, l'once d'or fin continue son chemin à la baisse. On est sous les 4 000 $ à nouveau, à 3 988 points. Allez, tout de suite, on déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Nos déchiffreurs du jour, Géraldine Métifeux, Alter Egal. Bonjour Géraldine.
Bonjour Antoine.
Et Olivier Le Chevalier, Deft Hedge, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on va rester dans la thématique de saison. L'été approche, les vacances approchent. Qu'est-ce qu'on fait et vers quel été on s'achemine? Moi, j'ai un petit peu de pif, hein, y a pas de mal à partager un petit peu ces intuitions. Je sens qu'on s'achemine vers un été un petit peu compliqué et un petit peu volatile. Alors, je me trompe peut-être, c'est du simple sentiment, mais quand on voit la volatilité autour de tout ce qui est lié à la tech, l'IA évidemment, mais singulièrement des semi-conducteurs, on voit des mouvements exceptionnels par leur amplitude du côté de Wall Street qui peuvent intervenir sur une seule et même session. On a vraiment des mouvements de yo-yo assez incroyables. Il y a tous les quatre matins des coupes-circuits qui se déclenchent à la bourse de Séoul parce que le secteur des semi-conducteurs devient très volatile. Bon, au-delà de ça, on a des considérations matières premières, on a des considérations monétaires. Géraldine, on va peut-être garder un œil sur son portable pendant les vacances, pendant qu'on prend le soleil, parce qu'il risque de se passer beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, il va sans doute se passer des choses pendant l'été, parce que traditionnellement, il y a un peu moins de volume, donc forcément, ouais, celui qui appuie sur le bouton a forcément un peu plus de points en réel. Maintenant, moi, je partage votre opinion, comme vous le savez, de se dire que je trouve que tout ça est un tout petit peu volatile, cette nervosité qui existe quand même depuis assez longtemps. Hein. En fait, on va l'oublier dans quelques jours parce que on va nous dire que le premier semestre a été très bon. Voilà ce qu'on va nous dire. C'est exceptionnel que le deuxième trimestre même est un meilleur trimestre pour le Nasdaq, un meilleur trimestre pour le CAC, etc. Comme moi, j'avais sécurisé mes clients, autant vous dire que j'ai pas l'air d'une imbécile. Néanmoins, je trouve toujours qu'on marche un peu sur des œufs. Je trouve tout ça très bizarre. Moi, je me souviens de Micron avec 86% de marge et de Apple en parallèle, genre quelques jours plus tard, qui explique qu'il va augmenter ses prix, ce qui ne tient plus les marges. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la planète bourse, à mon sens. Et donc, pour revenir sur votre propos, ouais, oui, l'été va être extrêmement compliqué. Garder son téléphone portable près de soi, moi, je pense que c'est dangereux pour les nerfs. Le mieux, hein, c'est que on se met d'accord avec son CGP, son conseiller, son ami, son IA, qui on veut, au début des vacances, en disant « Ok, je vais être un pas vide, je suis d'accord pour tenir la pause, et tant pis si je me casse la figure. » Ou alors, on se dit « Les gars, j'aurais déjà dû un peu écouter et me dire qu'il fallait que je fasse un petit peu attention, et en tout cas, je sécurise avant l'été, ouais, pour être un peu peinard. » Souvenons-nous également que le mois de septembre est traditionnellement assez mauvais.
En plus.
Donc, on peut s'enchaîner facilement 3 mois assez mauvais, et donc plutôt revenir peinard en disant « Bah, je suis un peu allégé. » J'ai bien gagné, j'ai bien joué, je prends mes pauses un peu, je me sécurise, je garde un œil sur les actions, mais je garde un montant qui va être relativement faible et qui ne dépassera pas les 20%, parce que si ça se casse la figure, vous n'aurez sans doute pas le temps de réagir, parce que vous le dites, c'est simplement dans une seule séance. Je ne sais pas sur quel endroit de la planète vous serez, je ne sais pas ce qui va réussir. Moi, personnellement, et je n'ai pas encore les résultats d'entreprise, vous non plus, j'imagine. Non, voilà.
Non. voilà. Pas particulièrement.
Je ne sais pas comment, je sais pas de quel côté va tomber la pièce, mais si vous voulez passer un été tranquille, on sécurise tranquillement. Pour ceux qui étaient investis, prenez vos plus-values, ça mange pas de pain, ces plus-values sont très importantes. Si vous êtes sur des fonds, écrêtez un peu, parce que le gérant aussi va partir en vacances, on sait jamais. Donc, prenez un peu des distances avec tout cela. Compte tenu de l'évolution des taux dont vous parliez, moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de risques à rester investi sur des fonds obligataires classiques, type un Carmignac Flexible Bond ou un DNC Invest Alpha Bond, qui ne va pas casser trois pattes à un canard.
En plus, on a des rendements qui se portent vraiment
plutôt
bien
pas
en
mal,
ce moment.
Plutôt pas mal. Donc, moi, je pense qu'on peut tenir un été plutôt comme ça en relativisant. Le monétaire, grâce à nos amis Euribor, ça reste des revenus qui sont pas trop mauvais et mieux que le CAT que la banque va vous proposer, donc pourquoi pas. Et puis on voit à la rentrée comment on redéploie le cash et est-ce qu'il est trop tôt à la rentrée, qu'on attend un petit peu ou est-ce qu'on s'y met à ce moment-là. Voilà notre sentiment de marché, voilà les conseils qu'on donne aux clients qu'on a sécurisés, on leur dit pas d'y aller non plus.
Non, ça c'est sûr. Voilà. Et quand je parlais du téléphone portable, je parlais pas vraiment des clients, je parlais plutôt des pros des marchés.
Mais oui, c'est pour ça que je dis non les gars, on va se mettre d'accord tout de suite.
Du calme.
Sincèrement, les mouvements risquent d'être très brusques.
Ça arrive toujours l'été. De temps en temps, ça explose au Japon et c'est toute la planète qui répond.
Parce que tout est un peu interconnecté. Et puis la tech est quand même extrêmement volatile depuis plusieurs mois. Et encore plus depuis la fin de la guerre, qui n'est pas une fin de guerre, etc. Mais tout ça devrait quand même, à un moment ou à un autre, déborder du vase. Et je préfère qu'on soit un petit peu sur les côtés tranquillement. Wow. Et en tout cas, si les clients restent, ils restent parce qu'ils savent qu'ils sont d'accord pour prendre des grosses volées. Parce que comme vous le disiez, des mouvements dans la journée, ça peut être 11, 15, 16%. Donc après, vaut mieux avoir pris ses positions un peu avant.
Alors, vous disiez, on marche sur des œufs. Et Olivier Le Chevalier, le prix des œufs, c'est quelque chose qui vous intéresse. Parmi les sujets que vous avez relevés, parce qu'on va faire un petit point sur les matières premières et sur les actifs, justement, qui c'est un peu votre dada, les couvertures, les cours des matières premières en particulier. Et les œufs, vous nous parlez d'un marché qui est manipulé depuis 3 ans. Alors, on sait que c'était un enjeu de campagne de Donald Trump, le prix des œufs. Enfin, ça nous avait tenu en haleine pendant des mois.
Oui, mais c'est vrai que Géraldine a fait l'introduction en disant qu'il fallait marcher sur des œufs là peut-être cet été. Et donc effectivement. Donc parce que j'en parle régulièrement dans mes notes de marché des œufs, etc. Puis en disant qu'ils étaient montés à $8.50 la douzaine aux États-Unis, ça avait fait un tollé. Il y avait tout le monde qui disait ah mince, c'est quand même un produit de base qui explose. Et en fait là, le ministère de la Justice américaine en fait s'est rendu compte que les prix étaient manipulés. Tout simplement par les trois plus grandes coopératives américaines.
Il y aurait eu un cartel.
Exactement. Et donc tous les matins, ils s'étaient dit en gros, il faut en fait se mettre d'accord sur le prix des œufs. Et donc c'est pour ça que ces gens-là ont fait leurs meilleurs bénéfices depuis ces 3 dernières années.
Et Rothschild et Morgan dans les années 20 sur le prix de l'or.
Exactement. Ouais. Voilà, c'était vraiment ça. Mais ce que je trouvais intéressant.
C'était 1920, Antoine, du coup.
Oui.
Quelque chose comme ça.
Mais du coup, ils ont fait leur meilleur trimestre de l'histoire à chaque fois pour chacun d'entre eux. Et ce que je trouvais intéressant, c'était on manipule les œufs, et comme on avait manipulé le Libor à une certaine période, etc.
Ouais.
Donc, du coup, voilà, c'était ça qui était un peu intéressant pour lancer un peu le brief matière première. Mais bon, là, je pense qu'ils vont ça va être quand même. Je pense coton, les amendes, là. Je pense que ça va leur coûter cher, cette histoire.
Ça, plus que les droits de douane, c'est sûr.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Non, il y a un truc, on terminait BFM Bourse là-dessus hier. Meilleur trimestre pour le CAC 40 depuis 2 ans. Meilleur trimestre depuis 2020 pour les marchés américains.
Oui.
Pire trimestre en 13 ans. Pour l'or.
Exactement.
Et on a reçu 2 spécialistes du marché de l'or ces 2 dernières semaines qui nous disaient, on est sur des niveaux d'équilibre parce que il y a beaucoup de positions un peu spéculatives qui s'étaient accumulées ces derniers mois, qui sont liquidées. Parallèlement, il y a quand même des forces de rappel parce que il y a des banques centrales qui sont toujours à l'achat. Globalement, l'or, si on regarde la tendance à un peu plus long terme, il y a une vraie cassure à un moment donné, et ça c'est... c'est peut-être signifiant de quelque chose.
Alors, je suis peut-être pas autant spécialiste sur l'or que les gens qui sont venus cette semaine, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais toujours alerté en disant que là, Il y avait Kevin Warsh déjà quand on reprend la Fed qui dit bah maintenant ça va être un peu plus difficile. Donc on se dit là c'est vrai que pendant les vacances, bon 28-29 juillet prochain, il va y avoir quand même une réunion de la Fed pour savoir si on garde les taux, si on hausse les taux, etc. Donc il y a un impact direct en tout cas sur le dollar. Donc ça c'est une première raison aussi. Donc si vous avez des rendements qui sont plus intéressants grâce aux taux, vous allez plutôt aller maintenant vous diriger sur des actions qui ont un rendement que peut-être d'aller prendre l'or où il a atteint des sommets. Il y a les ETF aussi qui où on voit bien qu'il y a pas mal de prises de profit où les gens se retirent. Donc ça fait. Et puis comme l'or est coté en dollars, bah forcément quand vous devez acheter, c'est un peu la double peine. Donc les gens vont ralentir un petit peu aussi leurs achats d'or, je pense, sur cette partie, notamment du côté de l'Asie en tout cas. Voilà. Et puis aussi bah, avec les entrées de SpaceX, etc. Bah, les fonds ont dû réallouer de l'argent. Donc je pense qu'il était plus facile de dire je suis rentré dans des fonds or. Et du coup, je vends pour pouvoir aller avoir de la liquidité pour aller justement prendre des actions aussi SpaceX ces derniers temps. C'était donc un il y a peu l'effet des taux, l'effet de la banque centrale, du coup, le dollar qui s'enchérit, et puis du coup, un peu un effet de marché aussi où la tech gagne, l'IA, et du coup, voilà, tout le monde s'engouffre dans cette dynamique.
Alors, en parlant de l'IA, il y a deux sujets qui sont super intéressants. Déjà, Géraldine, on a beaucoup parlé de souveraineté ces derniers jours. On voit que les grandes administrations françaises, maintenant, font pas comme l'Allemagne qui construit son cloud souverain avec Amazon. Non, mais c'est pas une blague.
Mais c'est drôle.
C'est ouf. Oui, c'est fou.
C'est complètement drôle. Quoi. Voilà,
non, il y a des startups françaises qui, entre guillemets, boycott le cloud souverain.
Alors pas complètement un boycott, mais...
C'est quoi? C'est une question de prix? C'est une question d'esprit? C'est nous, on veut être libre de faire ce qu'on veut? C'est quoi l'esprit?
Ouais, alors, je pense que c'est pas forcément... Alors, je crois que c'est pas leur première lettre. Hein. C'est une lettre qui a été signée par 5 Scale-up. S'il faut être précis, du coup. Alan, Doctolib, Implicity, Lifen et Resilience. Ouais. Et en leur indiquant qu'au fond, leur réglementation imposait quelque chose de franco-français, etc. C'est un frein. Je traduis, hein. C'est un frein à la croissance. Ouais, voilà. Ouais. Mais enfin, comme vous l'indiquez, les libertés ne l'ont pas parce que tout le monde. Et je trouve que cette lettre n'est pas tellement à point nommé parce que c'est quand même juste, quoi, 10 jours après l'administration Trump qui dit les gars, l'IA qui fonctionne bien, on ne donne plus aux étrangers. Je caricature encore un peu, pardon.
Alors, c'est en train de changer, là. Mais
oui, j'ai reçu le mail hier soir, mais ça ne marchait toujours pas sur mon truc ce matin.
Oui.
Enfin bon. Mais j'ai le mail, donc je me dis que ça a marché. Parce que comme je paye, j'imagine qu'ils vont quand même me délivrer le service aussi. Mais j'imagine, je vais appeler le SAV, je vais voir comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me semble un peu à contre-courant de dire, les gars, vous nous freinez dans nos démarches, on ne peut pas être des grands acteurs. Alors même que la souveraineté énergétique, la souveraineté numérique, c'est à mon avis des thèmes plutôt d'avenir sur lesquels on doit investir. Et tant pis, ça nous coûte un peu plus cher. Enfin, je sais pas, je pense que je suis pas la seule à avoir acheté le chat Mistral, qui est quand même un chat qui était pas aussi bon que d'autres pendant un certain temps, qui est un peu mieux meilleur depuis quelques semaines. Mais il y a un côté quand même où la souveraineté fait sens. Alors, en réalité, si je suis très honnête, leur discours, c'est de dire, vous nous opposez quelque chose alors que demain, dans un truc européen, donc le faucon français sera peut-être pas compatible. Très honnêtement, je pense que si, parce que si on résume sur autre chose, un parallèle qui n'est pas très très bon, mais quand même, je me permets, il y a un statut qui s'appelle CIF en France pour mon truc, qui s'appelle le Conseil d'investissement financier, qui n'est pas un statut européen, mais qui est compatible avec l'européen qui lui est le PSI, et ça marche très bien. Donc je pense qu'en réalité, c'est un faux débat. Et c'est en fait le changement de statut qui leur paraît cher, etc. etc. Il faut changer de statut et il faut y aller. Moi, je pense sincèrement que la souveraineté, plus tôt on va le mettre de souveraineté numérique, dans nos outils, dans tous ceux qu'on va servir, et surtout sur des données de santé, si je peux me permettre, plus ça vite ça fera sens. Et moi, je vois pas où est la difficulté là-dessus. Et donc, j'aurais cette lettre un peu détonnante, un peu
c'est
un peu
curieux,
à côté de la plaque, quoi. Et puisqu'en plus leur momentum était assez mal choisi, malheureusement, parce que ça tombe pile au moment où on se dit, la souveraineté, c'est hyper important, quoi.
Ouais, et on choisit des acteurs français du cloud et des data pour nos administrations, etc.
Donc voilà, je trouve que ça tombe un peu à côté, et on parle de grands noms, quoi, de gens qu'on utilise. Oui. Là, en plus, ils ont dû reporter des. Je me semble qu'ils ont dû remporter des choses pour des ministères, non? Je crois qu'ils ont reçu des appels d'offres de mutuelles pour les administrations.
Oui, tout à fait, avec des administrations, etc. Il n'y a rien qui a été officialisé, mais ils travaillent là-dessus. Et puis, c'est un acteur qui a du poids, qui a un nom.
Doctolib aussi, parce que
Doctolib,
c'est gratos pour les particuliers.
Pitié, nos données de santé, on n'aimerait pas les savoir sur un cloud en Alaska ou.
Bref. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Donc j'ai trouvé que c'était un peu à contre-courant. Alors, il y a une histoire de coût, il y a l'histoire que ça pourrait changer, que demain il y aura un autre acteur. Je trouvais que c'était un peu détonnant avant l'été d'envoyer cette lettre comme ça au ministre des Lumières qui vous dit bah, pourquoi pour ça quoi. Voilà. Donc je voulais porter ça, parce que je me dis votre science un peu à contre-courant.
Bah oui, non, c'est intéressant. Et souveraineté, bah tiens, on va en parler avec un sujet super intéressant. Et là, on n'en parle pas assez sur cette antenne, mais ce qui se passe en Afrique, qui est véritablement un creuset de terres rares et de matières premières essentielles pour la tech, et en particulier tout ce qui se passe autour du cobalt. Plus 160% sur un an, et on a même le Congo qui limite les exportations.
Oui, tout à fait. Bah, 160% sur un an, ce qu'il faut savoir, c'est le cobalt, vous en avez besoin dans toutes les batteries.
Oui.
Vous en avez besoin partout, pour l'IA, pour tout ce qui est électrification, en tout cas.
On a beaucoup parlé du coltan aussi au Congo, qui est une matière première essentielle pour tout ce qui est télécom, semi-conducteur,
exactement,
etc. Bah, là, cobalt, oui, effectivement, on est en plein dans la problématique aussi.
Exactement, mais du coup, c'est vrai que le Congo, là, il joue un peu le rôle de l'OPEP, on peut le voir un peu comme ça, parce que du coup, il va contrôler, en fait, tout simplement le prix. Il a dit, bon, bah voilà, moi, je détiens 80% des exportations sur le cobalt, donc il a commencé à mettre des quotas d'exportation sur le sujet. Donc forcément, bah là, les prix ont pris 160% en un an, mais bon, bah, les gens se sont couverts hein, quand même, les industriels, il n'y a pas de sujet. Mais en tout cas, il faut voir que on va peut-être avoir un coût supplémentaire encore lié à ça dans les 12-18 mois prochains, en fonction de la libération des couvertures aussi des entreprises. Donc ça, c'est des sujets qu'on a en parallèle, qui est assez intéressant, qui suit... Du coup, on avait parlé aussi de l'argent récemment, là, qui a été monté à des sommets, bon, qui s'était lié à l'or, qui s'était emballé, et qui est lié aussi à la demande des industriels. Donc, mais tout ça, bon, et un peu l'effet aussi des investisseurs particuliers qui s'étaient engouffrés dedans. Donc, effectivement, là, ça faisait partie des hausses de prix. Donc là, tout ça, c'est un peu lié à la demande quand même de la tech. Et on voit bien qu'on a beaucoup de sujets tout autour de tout ça, de toutes les matières premières.
Avec la DRAM qui fait monter les prix chez Apple, chez Microsoft aussi.
J'ai l'impression qu'il y a peu de corrélation quand même. Parce que moi, je comprends parfaitement. Je serais le Congo, j'imagine que c'est une position plutôt assez intéressante de savoir qu'ils exportent 80%. C'est-à-dire qu'ils ont le monde dans leurs mains.
Exactement.
Un peu comme ils le sentent, je comprends. Qu'ils veulent tirer... Les marrons du feu, ça me paraît pas délirant. Mais ce qui me paraît délirant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette appétence du particulier pour tout ce qu'il a déjà gagné, donc ils vont gagner autre chose.
J'achète parce que ça monte.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a côté un peu des années 2000. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, à chaque fois, je suis obligée de le dire, parce que ça date un peu. Mais souvenez-vous, c'est un peu quand même des discours qu'on avait. Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais quand on cherche absolument à acheter, quand on décale des valeurs qui sont sur des très très grosses valeurs, qu'on va sur des plus petites valeurs, et ainsi de suite, et qu'on décale dans la chaîne systématiquement pour trouver ce qui vaut moins parce que c'est bon, est-ce qu'à chaque fois on a bien vérifié que la valeur était là? Et quand on achète au bon prix, je ne suis pas certaine. Mais peut-être que 160% sur le commerce, c'est le bon prix. Vous voyez, Olivier, moi je ne suis pas sûre.
On en parle comme ça.
Mais il faut assumer le prix derrière, parce que comment ils font les
gens? C'est-à-dire qu'après, ils vont un peu, peut-être, je pense, dicter la loi pour des gens comme Tesla, l'augmentation des prix.
Oui, mais attendez,
pour la Chine.
Mais il faut quelqu'un qui l'achète, votre truc, quand même, au moment.
Il y a des gens qui sont là. Eux sont les meilleures performances sur les matières. Depuis le début. Là, je me suis fait une petite liste d'ailleurs des sociétés qui avaient cartonné. Il y a les Constellations Énergie. En fait, là, eux, c'est les contrats pour l'IA, mais c'est de tout ce qui est nucléaire. Donc, on revient à Glencore, forcément, comme il est raffineur sur le cobalt. Donc, effectivement, ces gens-là en bénéficient. Et puis là, on l'a vu dans le pétrole aussi. On a vu que Eni s'était rapproché de Mercuria là récemment pour pouvoir en fait aller profiter des marges, parce que les raffineurs sont qui ont fait les plus grosses marges là cette période du détroit. Quoi.
Deux choses là, oui, c'est vrai. Mais vous le dites vous-même là, après cette psychose autour du détroit d'Hormuz, on va revenir à des problématiques d'offres et de demandes qui vont nous ramener directement au pays source. Ça c'est évident. Et puis deuxième chose, moi je me souviens quand même d'un super cycle de la DRAM. Il y a deux bonnes grosses décennies qui s'étaient terminées par un bain de sang. Il y a la moitié des industriels du secteur qui avaient été rayés de la carte. C'est peut-être là qu'il va falloir faire attention sur l'évaluation et la valeur réelle que tout cela crée. Je suis désolé, on est obligé de s'arrêter. Géraldine Métifeux, Alter Egal, Olivier Le Chevalier d'Eftage, merci pour ce déchiffrage encore une fois très très riche en informations et en sujets à suivre tout l'été, bien entendu. Allez, tout de suite les arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Antoine Fraisse-Soulier dit Toro, bonjour. Alors le CAC 40 avait terminé le semestre sur une hausse, on s'était fixé au-delà des 8400 points. Bon bah première journée de juillet et une baisse, on est en repli de 0,39%, mais enfin rien de bien significatif. On sent encore les marchés un petit peu dans l'attente de ce qui pourrait ressortir du symposium de Cintra sans doute, mais aussi assez peu de décisions. Faut voir aussi que la semaine va être écourtée du côté de Wall Street, hein. Il y aura pas de séance vendredi, donc ça doit peser naturellement.
Oui, oui. Alors effectivement, le CAC 40 bon, démarre ce second semestre, hein, parce que c'est le premier jour du second semestre aujourd'hui, par une petite baisse, mais rien de bien méchant. On voit qu'on a un CAC 40 hein, qui navigue maintenant entre 8300 et 8500 points. Alors, si on fait un petit bilan de ce qui s'est passé, donc déjà au mois de juin, on a quand même un CAC 40 qui gagne 2,7% et surtout 7,5% sur le deuxième trimestre. C'est sa meilleure performance trimestrielle depuis eh bien, le premier trimestre 2024. Donc ça, c'est quand même à noter. Et il progresse de plus de 3% depuis le début de l'année. Alors, du côté des valeurs, ce qui est intéressant de regarder hein, sur cette première partie de l'année, eh bien, c'est ST Microelectronics, en fait, qui a la plus forte hausse du CAC, donc avec une hausse de 190%. Mais c'est aussi la plus forte hausse du Stock 600 Europe. Hein, donc c'est vraiment la valeur phare européenne, j'ai envie de dire, du premier semestre. Alors évidemment, elle bénéficie hein, bien sûr hein, d'un double moteur. Hein, c'est évidemment le rebond des semi-conducteurs en bourse et l'explosion des investissements dans les data centers, les infrastructures, etc. Donc on a un titre qui explose littéralement, on peut le dire. En deuxième position, on trouve ArcelorMittal qui revient donc sur ses plus hauts de 2011. On est un titre qui prend 35% depuis le début de l'année. Et la troisième forte hausse, c'est BNP Paribas qui, elle, pourrait être de 25% et est au plus haut historique. Et là, évidemment, c'est la thématique remontée des taux qui devrait d'ailleurs se poursuivre, hein, je pense, sur le second semestre. Je pense que le secteur bancaire a encore de beaux jours devant lui. En revanche, si on regarde de l'autre côté, des plus fortes baisses, eh bien, la plus forte baisse de l'année, c'est Stellantis. Stellantis qui perd 46% depuis le début de l'année. Alors évidemment, on a beaucoup d'explications, hein, évidemment, avec la demande qui ralentit un peu partout en Europe, aux États-Unis et la concurrence chinoise qui s'intensifie. Tout ça donc fait que Stellantis donc a cassé 5 euros en bourse hein, hier. On repasse aujourd'hui au-dessus, mais bon, c'est pas glorieux. Et plus étonnant, donc la deuxième plus forte baisse de ce premier semestre, c'est Essilor Luxottica, qui perd 38% quand même depuis le début de l'année. Alors c'est un titre qui avait énormément progressé, c'est plus un retour finalement de la valorisation qui était très très élevée, hein, un des plus forts ratios PE de la cote. Et on va trouver aussi Capgemini qui perd 38%. Évidemment, toutes les sociétés de services informatiques, eh bien, comme aux États-Unis, ont été pénalisées. Voilà. Et pour terminer, je voulais parler du Stock 600 qui est en belle hausse hein, sur le semestre, hein, qui progresse de 8,3% sur le premier semestre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les 5 plus fortes hausses du Stock 600, eh bien, ce sont 5 valeurs qui sont dans les semi-conducteurs. Donc, on va trouver ST Microelectronics, comme je le disais auparavant, Infineon. Hein, donc l'équivalent allemand de STM qui prend 117%. Et plus étonnant, eh bien, on va trouver Nokia. Qui prend 109% depuis le début de l'année. Et là, c'est vraiment une belle revanche, j'ai envie de dire, pour ce titre, hein, finalement, qui était à la casse hein, depuis de nombreuses années et qui renaît un peu de ses cendres, hein, puisque on a quand même un titre qui est passé de 6 euros à au plus haut de 17 euros au mois de juin. Et donc c'est assez intéressant.
Incroyable. Ben oui, effectivement, cette tech européenne hein, qui reprend vraiment de la vigueur et on le constate véritablement tous les jours. Tiens, à ajouter à votre palmarès du côté du SBF 120, la troisième plus forte hausse. Alors ça nous a beaucoup étonné hier, mais c'est pour le semestre, c'est Mersenne, hein, l'ancien Carbone Lorraine, mais qui est en plein dans la problématique des terres rares et des minéraux nécessaires à l'équipement électrique, au data center, etc. Donc, merci beaucoup Antoine Fraissoulier d'Itoro pour ce point complet hein, sur le semestre boursier. Comme ça, on a bien fait le point. Restez avec nous dans un instant. Évidemment, votre moment pratico-pratique. Grosse boîte à outils avec deux intervenants avec nous de chez KMH for Life. On va parler de l'apport cession. Mais oui, entrepreneurs qui vous nous écoutez, on le sait. Et on sait que c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez besoin de toutes les lumières de nos pros qui viennent nous rejoindre sur le plateau dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Grosse boîte à outils, on vous a même convoqué, non pas un, mais deux spécialistes hein, de ces problématiques régulatoires, bref. Fiche technique hein, de sujets qui vous intéressent, et notamment vous, entrepreneurs, qui avez la tête dans les papiers, qui souvent n'avez pas trop le temps. On se le disait hors antenne. Arnaud Tourlet de KMH for Life. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Un habitué hein, des plateaux de BFM Business. Et on vous retrouve avec votre collègue Guillaume Hublot. Bonjour. Merci Bonjour, d'être Antoine. Là. On va peut-être commencer par un peu de lecture justement pour nos chefs d'entreprise cet été. Alors c'est technique, mais attendez, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, alors vous avez écrit un livre blanc qui est bleu. En vrai,
un livre bleu, voilà.
Mais justement pour essayer de tout comprendre sur ce sujet qui porte un nom qui rappelle un petit peu un code Wi-Fi, qui est donc le 150-0BTER. Et c'est le nerf de la guerre pour l'entrepreneur. Arnaud Tourlet, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu tous les enjeux techniquement de cette problématique?
Alors, je vais laisser Guillaume parler des enjeux techniques, mais déjà peut-être juste en guise d'introduction, pourquoi on a fait ça?
Ouais.
Pourquoi on a sorti ce livre blanc-bleu? Tout simplement parce qu'il y a une grosse demande.
Je vous confirme, on a des tas de questions dessus. Et c'est...
On le sait, hein, dans les années à venir, il va y avoir énormément de cessions d'entreprises. La démographie, notamment, joue dans ce sens-là.
La grande transmission.
Exactement.
On y revient.
Et par rapport à cette demande, on a constaté que, en fait, les réponses étaient pas vraiment convaincantes. Que ce soit de la part de l'ensemble de l'écosystème, hein, des banques, des assurances, des spécialistes, des avocats, des notaires, c'est compliqué d'avoir des réponses qui vraiment satisfassent les entrepreneurs sur ce sujet-là. Donc on s'est dit, il faut qu'on amène quelque chose, il faut qu'on c'est notre métier hein, de conseiller les gens sur la gestion de leur patrimoine de manière générale. Et sur ce sujet précis, on a vu qu'il y avait un manque. Donc on a sorti ce livre blanc et Guillaume, je te laisse dire un peu pourquoi et de quoi il s'agit plus précisément.
Oui, et ce besoin de précision, j'allais vous le dire avant de vous céder la parole, ça a aussi été un enjeu de la dernière, loi budgétaire. Il y a eu justement des modifications, donc c'était peut-être important de revenir sur l'ensemble de ces points-là. Donc concrètement, comment ça se présente? Quel est le dispositif?
Alors concrètement, lorsqu'un entrepreneur cède son entreprise, il va notamment payer beaucoup de plus-value. Et il y a un dispositif qui s'appelle l'apport cession, qui est le fait pour un entrepreneur d'apporter ses titres à une société holding. Dans ce cas-là, l'imposition des plus-values est déclenchée, mais elle est mise en report d'imposition. Si la holding cède par la suite, dans les 3 ans, les titres, l'impôt est dû, sauf ce dispositif de 150-0BTER qui lui permet de maintenir le report. Les conditions, en fait, c'est de faire du capital risque. Le système, il a été fait pour qu'on soutienne l'économie. C'est de l'injection de capitaux dans les entreprises. Et donc, c'est un enjeu en France puisqu'on nous parle toujours du fait que les entreprises sont sous-capitalisées, qu'on manque d'investissement et qu'un certain nombre d'entreprises sont forcées de partir à l'étranger pour trouver ces financements.
Oui.
Donc là, c'est tout l'enjeu du mécanisme. Et ce que le législateur me semble avoir oublié, c'est qu'il s'agit de capital risque. C'est-à-dire que les gens qui apportent 1 million, par exemple, dans une société holding, aujourd'hui, ils vont devoir mettre 700 000 euros en capital risque. Okay. Et il n'y a pas que des gains, il y a aussi des pertes.
Bah, c'est le principe du capital risque, j'allais vous dire. Effectivement,
voilà.
Quels sont les points précis qui ont changé dans la dernière loi budgétaire?
Alors, le législateur est venu passer la quote-part, on ne doit pas tout réinvestir. Avant, c'était 60% de réinvestissement. Aujourd'hui, on est passé à 70%. 70%, donc évidemment, on va augmenter le risque que prend l'entrepreneur au moment même où il prend sa retraite.
Tout à fait.
Le deuxième point, c'est qu'on avait deux délais de détention des titres achetés. Un délai à 12 mois et un délai à 5 ans. 5 ans, c'était pour les fonds d'investissement. Et 12 mois, c'était pour les participations en direct, c'est-à-dire l'entrepreneur qui joue un rôle de business angel. Ça, c'est terminé.
Ouais.
Le délai est désormais à 5 ans.
Ouais.
Et ça, ça modifie radicalement le paysage. Parce que quand vous investissez à titre individuel, directement dans une entreprise, ben, l'entreprise, elle peut faire faillite.
Oui, tout à fait.
Ou, en général, il y a des clauses qu'on appelle des drag-longs ou des tag-longs qui, si la société est vendue, ça force les minoritaires à vendre en même temps. Et dans des projets de start-up, ça peut arriver. Et donc, la condition, en cas de faillite ou en cas de drag-long, de détention des titres pendant 5 ans, ne pourra pas être maintenue. Ce qui fait que, désormais, les gens qui voudraient utiliser ce mécanisme-là doivent forcément se retourner vers des fonds d'investissement spécialisés.
Ben oui, j'allais vous dire, on passe de l'auto-private equity à la nécessité de se mettre sous la coupe d'un fonds d'investissement, tout bêtement.
Ouais. Voilà. Ouais. Mais alors après, il n'y a pas que le private equity, il n'y a pas que les fonds de private equity classiques. Hein. Il y a d'autres choses qu'on peut faire dans ce dispositif-là. Hein. Et tout l'intérêt, d'ailleurs, c'est ça, c'est ce que nous, on préconise, c'est d'avoir une diversification des investissements. Et à partir de là, d'ailleurs, juste pour donner 2-3 chiffres d'ordre de grandeur, si vous avez une nécessité de diversification, une volonté de diversification, ça veut dire qu'il faut au moins investir dans 5 ou 6 fonds différents, on va dire.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc,
sachant que les tickets d'entrée, c'est en général, c'est 100 000 euros. Donc, il faut avoir au moins 500, 600 000 euros à réinvestir. Donc, en gros...
C'est pas donné à tout le monde, j'allais vous dire.
Ouais, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit. Si vous êtes pas dans le cas où vous cédez une entreprise pour au moins 1 million d'euros, c'est compliqué
de faire
ça, le 150 OBTR, la port-cession. À partir d'un million d'euros, c'est jouable, parce que vous allez réinvestir 70% de ces 1 million, donc 700 000. Avec 700 000 euros investis, vous pouvez diversifier sur 5, 6, 7 fonds. Ouais. Et là, vous pouvez faire du private equity, vous pouvez faire des bois et forêts, vous pouvez faire de l'hôtellerie, vous pouvez faire plein de choses.
Ouais.
Vous pouvez faire... Par contre, il y a des trucs qu'on ne peut plus faire. Là aussi, la loi de finances a changé.
Ouais.
Par exemple, les activités de marchand de biens dans l'immobilier, terminé. On ne peut plus.
Ah oui, oui, d'accord. C'est toujours l'esprit de il faut que l'argent vive. Enfin, c'était l'esprit de la loi. Il y a peut-être autre chose que ces dernières modifications de la loi budgétaire ont adopté. C'est vrai qu'il y avait une sorte de grand Satan qui s'appelait la holding. Toutes ces modifications nous remettent à l'esprit que pour certains patrimoines, et notamment celui des entrepreneurs, la holding, c'est pas le grand Satan, c'est même la boîte à outils. Hein, c'est le titre de la rubrique. Et est-ce que c'est ça que vous avez ressenti justement dans les modifications qui ont été faites sur la dernière loi budgétaire ?
Alors oui, effectivement, on ressent que la holding est considérée comme un grand Satan, alors qu'effectivement, c'est une boîte à outils. De temps en temps, elle est dévoyée. Et moi, je pense que l'administration fiscale avait déjà en fait tous les outils pour combattre ces dérives. On n'avait pas besoin de loi. Et de ce fait, on arrive à des lois très très dogmatiques qui s'éloignent de l'utilité pour la collectivité de ces outils. Parce qu'on a une utilité évidemment pour le dirigeant, mais on a une utilité pour la société tout entière.
Oui, tout à fait. Arnaud Tourlet, le mot de la fin, il nous reste 30 secondes. Les clés d'un apport-cession réussi, ce serait quoi selon vous ?
Alors déjà, c'est une étape cruciale dans la vie d'un
entrepreneur
de céder une entreprise, que ce soit pour partir à la retraite ou pour peut-être en racheter une autre.
Et la recommandation que donnent beaucoup de professionnels qui succèdent sur ce plateau, c'est de commencer à y plancher dès la création de l'entreprise.
Alors, on peut commencer à y penser dès la création, mais en tout cas, en effet, il faut y penser assez tôt.
Ouais.
Il ne faut pas attendre le fait de dire « je vais
d'être
vendre dans 3 mois
».
Il faut y penser tôt, il faut créer sa holding assez tôt et il faut décider combien on met dans la holding et combien on met en dehors de la holding. Vous n'êtes pas obligé d'apporter 100% des actions de votre boîte dans la holding. Hein. Parce que c'est un vrai projet de vie. Il faut savoir quels seront vos besoins derrière, quels seront vos objectifs. Et donc, ça se prépare. Voilà, tout à fait.
Effectivement, ça se prépare très en amont. Arnaud Tourlet, associé gérant KMH for Life avec Guillaume Hublot qui était avec nous. Merci d'avoir vraiment refait cette fiche technique avant les vacances, toujours utile pour vous entrepreneurs qui nous écoutez sur la Port Session. Merci beaucoup, à une prochaine fois et on passe au placement à suivre.
Merci. Tout pour investir, le placement à suivre.
Benoît Fernandez Rioux, des établissements Benoît Fernandez Rioux. Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Bon, mieux que le Bitcoin, j'espère. On va se consacrer justement à la reine des cryptos. Et on a vu que depuis quelques semaines, la tendance était franchement négative. On a cassé plusieurs seuils importants. Alors, très symbolique, après, l'analyse technique donne d'autres chiffres. Mais on est passé sous les 60 000 dollars. On est même passé sous les 59 000 dollars ces dernières heures. Et on a l'impression que le segment est un petit peu... j'allais dire déserté, pour employer les grands mots. Quel est votre sentiment autour de ce qui se passe sur le Bitcoin là en ce moment?
Oui, c'est exactement ça. Le Bitcoin est un peu délaissé. La plupart des cryptos qui suivent effectivement aussi le comme Ethereum et qui suivent le reste du mouvement sont également. Disons que la mode est un petit peu passée parce que les cours sont effectivement très bas. On a en gros divisé par deux depuis le plus haut au-delà des 120 000. Là, on est sous les 60 000, comme vous l'avez dit, et on est clairement en dessous du plus bas du début d'année, qui était déjà une zone un peu compliquée autour des 60 70 000. On était remonté en mai, vers fin avril, début mai, vers 80 000, et on avait un petit peu d'espoir, mais là, on a buté sur une sorte d'oblique qui agit en forme de résistance, et ça a renvoyé les cours sous les 60 000, et là, très clairement, on est désormais en train de rechercher le point bas. Le point haut ultime récent, on l'a eu, au-delà des 120 000. Le point haut qui pourrait revenir, quand on regarde en logarithmique, pourrait être autour des 150 000, 170 000, mais ça, c'est dans plusieurs années. Et là, désormais, tout le monde est un petit peu à la recherche du point bas ultime, sachant que ce point bas, il est évidemment lié au coût du Bitcoin, c'est-à-dire en gros le coût de minage, puisque quand on achète un Bitcoin, on est très clairement sur une production électrique, en fait, une certaine consommation électrique pour pouvoir le produire, et elle ne fait que progresser dans le temps, puisque la difficulté augmente, et on estime que ce coût est autour des au plus haut 80 000 et au plus bas 60 000, 50 000pour les mineurs qui sont le plus industrialisés, qui ont rentabilisé leur ASICS depuis longtemps. Mais tout ça fait que désormais, on embarque, plus on descend et plus on embarque la plupart des mineurs, donc un petit peu toute l'industrie crypto, vers des pertes et vers des dépréciations en quelque part. Donc c'est ce qui se passe, cette recherche de points bas autour d'un coût de minage qui dépend de chaque mineur, mais qui se situe autour des 50 à 70 000 en moyenne, et 80 000 pour les moins efficaces.
Oui, donc c'est ce que le marché recherche. La pression risque de rester forte, parce qu'on l'a vu, et on en parle aussi au quotidien, il y a énormément de mineurs maintenant qui sont sollicités par leur capacité de calcul, par l'IA, par les fournisseurs de données, etc. Donc ça risque de rajouter de la pression autour de la rentabilité du Bitcoin en tant que tel.
Tout à fait. Tous ceux qui avaient des GPU, notamment, passent petit à petit sur l'IA, qui est beaucoup plus rentable. Effectivement, ne reste que les ASICS qui, eux, ne peuvent pas faire autre chose que du Bitcoin. Et donc, on a de moins en moins de mineurs. Et effectivement, même eux commencent à être touchés, parce qu'on se rapproche effectivement petit à petit des 50 000 dollars, donc le Bitcoin, en passant sous cette fameuse zone de support autour des 60 000 qui avait tenu en début 2026, mais qui désormais vient d'être franchi à la baisse. Donc c'est une sorte d'alerte. Le Bitcoin ne devrait pas aller bien plus bas que les fameux 50 000, 60 000, même si on a un point bas, entre guillemets, ultime vers 38 500, 40 000, disons. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir surveiller effectivement comme placement à suivre, parce que après, malgré tout, on peut avoir un retour à meilleure fortune sur cette reine des cryptos qui donne le là, et qui effectivement a connu par le passé déjà, et a généralement tous les 4 ans, un point bas autour du coût de minage qui ne cesse de progresser. Et c'est le entre guillemets, le bon moment pour se positionner sur du long long terme. Mais pour l'instant, on ne fait que rentrer en début de cette phase, donc à surveiller durant cet été, effectivement.
Oui, ça risque d'être aussi une des sources de déstabilisation des marchés hein, cet été, effectivement, cette forte correction sur le Bitcoin qui pointe. Autre source de déstabilisation possible quand même, on va peut-être dire un mot, Benoît Fernandez-Riou, de cette faiblesse continue du yen par rapport au dollar. On a vu il y a quelques années que les coups de grisou ils pouvaient venir justement du côté des marchés japonais et du côté des considérations monétaires dans des marchés assez peu liquides, assez peu pratiqués du côté de la saison estivale. Bon, là, on est quasiment sur un plus bas de 40 ans hein, pour le yen. Est-ce que vous pensez que la tendance peut se poursuivre et provoquer des à-coups de nature à rendre notre été vraiment pas terrible?
Effectivement, alors sur USD-JPY, on est sur un plus haut parce que le yen est en devise de contrepartie, effectivement. Donc c'est un plus bas sur le yen, comme vous l'avez dit, de plus de 40 ans. La dernière fois que le yen était si bas, ça a été au début des années 90. Avant, nous étions évidemment dans un autre monde. Donc c'est une sorte de, sur l'USD-JPY, de all-time high récent, enfin de point haut ultime, et on vient très clairement de dépasser la zone que défendait Mordicus, la Bank of Japan, c'est-à-dire 162, après avoir défendu les 160, qui est la zone un peu symbolique. Mais là, 162 a cassé, on a eu des ventes d'options, des rachats de stop, enfin, pas mal de positions qui étaient derrière cette barrière des 162, et ça a propulsé les cours jusqu'à, au moment où on parle, à 162,70 exactement. Ça pourrait continuer, mais il faut faire attention parce que la BOJ et puis le ministère of Finance japonais vont très certainement vouloir contrer cette tendance de fond. Ça va être compliqué quand même de laisser filer le yen bien plus bas. Tout réside évidemment dans avec quelle ampleur et avec quels outils et à quel moment évidemment la BOJ, les autorités japonaises vont vouloir répliquer. Il se peut que ce soit via une hausse de taux, évidemment. Ça peut aussi être un arrêt d'achat massif des bons du Trésor américain, ce qui embêterait un petit peu, là pour le coup, l'économie américaine et le financement de sa dette, notamment. Donc, il y a plusieurs options. La parole, en tout cas, ne suffira plus, puisque la parole, elle l'avait utilisée précédemment, au printemps. Et là, désormais, au-delà des 162, c'est plutôt des actes que le marché attend, des actes forts, des actes massifs. Au-delà de la parole, elle avait déjà, entre guillemets, brûlé près de un peu plus de 60 milliards d'équivalents dollars américains pour essayer de contrer cette tendance sous les 160. Mais malheureusement, là, désormais, il va falloir aller bien plus fort et peut-être avec d'autres outils.
Et encore un dossier chaud pour cet été. Merci de nous avoir mis le nez dessus, Benoît Fernandez-Riou, stratège taux et devises. On passe au coffre-fort.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Le coffre-fort. Ben, hier, on a un peu déchiffré les choses avec Souleymane Jean Galadima de Sapiens, qui nous disait que c'est peut-être le moment d'investir, de protéger nos portefeuilles en investissant sur ce qui nous protège. Et je trouvais la formule bien trouvée. Mais là, on va se poser la question de base avec Benjamin Watine de SoWeFund. Bonjour Benjamin. J'espère que vous nous entendez.
Je vous entends très bien.
Ah ben super, tout va bien, on a le son. Vous posez une question essentielle, c'est-à-dire on est entre deux canicules, il y en aura peut-être d'autres sur le reste de la saison estivale, enfin on sent que c'est bien parti pour. Au milieu de tout ça, avec nos biais comportementaux sur les marchés dictés par la politique monétaire, l'intelligence artificielle, ceci, cela, est-ce qu'on investit là où il faut? Est-ce qu'on investit correctement? Et est-ce que c'est pas finalement le cœur des questions qu'on doit se poser quand on est investisseur particulier, quand on a des finances personnelles, de se dire ben ce monde qui m'entoure et qui m'embête surtout quand on est au-delà des 40 degrés dans des apparts mal isolés, est-ce qu'on investit bien son argent là où il faut?
Ben c'est une grande question, c'est une question multiple. Si vous voulez, ça fait en effet depuis quelques semaines qu'on n'arrête pas de voir. On va dire Jean Colifis sur les plateaux qui nous explique quelque chose d'assez radical et assez simple, qui est qu'on a du mal à comprendre qu'on vit dans un monde qui va être de plus en plus différent, donc que le monde dans lequel on vivait, il est fini. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les combustions fossiles, ce qui a fait notre pouvoir d'achat jusqu'à maintenant et notre confort, eh bien, c'est en quelque sorte terminé. Et ce qui veut dire, par la même occasion, que la chaleur, ça n'est plus un aléa météo, c'est une véritable, maintenant, économie, une véritable économique permanente. Et donc, quand on parle d'économique permanente, on parle de création de marché. Donc, si vous voulez, déjà, le simple fait qu'il y ait des canicules et qu'on soit dans cette situation, dans ce changement profond, eh bien, c'est pas hyper optimiste, mais c'est aussi une opportunité de marché.
Oui, et puis c'est une stratégie, je dirais que c'est une philosophie de long terme, parce que enfin, on va pas acheter 2-3 actions de sociétés qui fabriquent des éoliennes en se disant bon ben voilà, problème réglé. Non, c'est quelque chose de plus général qui touche les fondamentaux économiques et je dirais notre philosophie d'investissement de tous les jours.
Bah, si vous voulez, il y a quelque chose, en effet, un diagnostic qui est assez intéressant. Je le rappelle encore le contexte, hein, toutes ces images frappantes qu'on a vues, parce que c'est important de rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire, ces augmentations de chaleur? Ça veut dire plus de 1000 morts depuis par rapport à l'année dernière, et plus de 1000 morts là, depuis le 24 juin, selon la santé publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des interventions en hausse de tout notre système de santé, pompiers, SAMU, hôpitaux, des malaises, manque de productivité. Il y a aussi des études qui démontrent que c'est compliqué de travailler au-dessus de 22, 23 degrés dans les bureaux. Donc ça pose beaucoup de questions en termes d'organisation structurelle, d'infrastructure. Et si vous voulez, les tendances et les projections d'observatoires comme Allianz Trade, c'est des pertes très très importantes de l'ordre de plus de 250 milliards de dollars de PIB cumulé pour la France entre 2026 et 2030. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut pas en faire abstraction et que nous, en tant que particuliers, il faut en effet qu'on ait qu'on agisse. Mais comment on peut agir? Et c'est là que j'essaie de répondre à votre question. C'est plutôt la réponse immédiate et naturelle, c'est on a chaud, on veut s'acheter un climatisateur, et qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter des petits ventilateurs, des climatisateurs mobiles, des monoblocs, qui sont des aberrations énergétiques, thermodynamiques. Ça surconsomme de l'électricité, ça rejette beaucoup plus de chaleur qu'un climatiseur mieux dimensionné, et donc ça aggrave la précarité énergétique des ménages, parce qu'ils payent plus et ils ont des choses qui sont un peu moins bien. Donc tout ça, c'est un système qui doit être pensé, mais si on se met à la place du consommateur, ça veut aussi dire que il y a des investissements qui sont plus intéressants que d'autres, et peut-être à soulever, qui est hyper important, c'est que et là, on peut parler souveraineté. C'est ça qui m'intéresse. C'est Zouati, dans une de ses interventions, qui représente le Mirova, qui est un acteur reconnu dans l'impact investment, qui parle de quelque chose d'intéressant. C'est que non seulement on est en train de réagir de manière un peu abrupte et rapide, en achetant et en consommant, mais en plus il faut savoir que la filière, c'est un quasi duopole chinois et japonais. Donc d'un côté on a Daikin au Japon, et de l'autre côté on a Gris et Midea.
Ouais, effectivement, c'est pas ça qui va nous arranger sur le long terme. On peut peut-être terminer, Benjamin, par vous chez Sowifund, vous investissez en dur dans les entreprises, et justement via ce changement de paradigme, un petit peu ce changement de philosophie, vous avez plusieurs exemples de sociétés qui sont pas forcément très très connues, parce que voilà, les sociétés d'infrastructure, les sociétés d'énergie verte, etc., sont des solutions qui sont étudiées par beaucoup d'analystes. Et puis il y a sur le terrain des sociétés peut-être un petit peu moins connues, mais qui ont vraiment les mains dans le cambouis de ce changement climatique.
C'est ça. Aujourd'hui, il y a une carte unique, je pense, en France à jouer. Déjà, on a une des énergies les plus bas carbone, avec le nucléaire et avec le solaire. Là où il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'il y a, la partie solaire, c'est quand il y a beaucoup de soleil qui fait chaud. Donc du coup, c'est encore de l'énergie bas carbone. On a peut-être quelque chose à jouer avec la clim en France, pour pouvoir réagir à un certain nombre de besoins. Il y a des sociétés, et là, merci pour la question, donc j'ai prêché pour la paroisse Soifan, que vous pouvez retrouver sur plutôt les marchés non cotés, où là, on a une société comme Sirona Technologies, où l'idée de départ, eh bien, c'est une réalité scientifique qui fait que on oublie souvent que même si on arrête toutes ces émissions demain, eh bien, il y a quand même une quantité colossale de CO2 dans l'atmosphère qu'il va falloir retirer activement. Et donc Sirona, eh bien, capte directement ce CO2 dans l'air et va pouvoir aspirer au travers de modules et de sorbants solides, donc là c'est un peu technique, mais ce CO2 est le stocker définitivement dans des roches souterraines. Bah, Sirona est aujourd'hui accessible sur notre plateforme à partir de 1000 euros et va pouvoir vous permettre en plus de défiscaliser aux côtés de professionnels comme Xange et Local Globe qui ont déjà investi plus de 4 millions. Vous avez Wingfisher, qui est une start-up dans les Alpes, hein, qui a gagné pas mal de concours d'innovation, qui eux vont chercher du vent là où il est vraiment hyper hyper puissant, c'est au-dessus de 300 mètres. Donc là où les éoliennes classiques, elles vont pas pouvoir réagir, et c'est deux fois plus puissant qu'une éolienne en termes de capacité de production. Et du coup, bah, ça permet aussi là de déployer plus rapidement, de manière un peu plus efficace, un nouveau système. Et donc, imaginons demain que nos clims tournent avec des systèmes comme Wingfisher, bah, c'est beaucoup plus bas carbone que du charbon, comme chez nos voisins polonais ou allemands de temps en temps.
Benjamin Watin, Soifan, le nom des sociétés, hein, vous pouvez les retrouver chez vous, hein, chez Soifan. Merci de nous avoir mis le nez sur ces problématiques environnementales, hein, au milieu de cet été qui s'annonce extrêmement chaud. Benjamin Watin, Soifan, merci infiniment. TPI, c'est terminé pour aujourd'hui. Marie Cœur de Roy, tout de suite pour les Experimo, et je vous retrouve aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse 15h30. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.